RFI.
Et voici aujourd'hui l'économie avec Abla Jonaidi. Bonjour Abla.
Bonjour.
C'était il y a un an, jour pour jour, le 21 novembre 2017. Robert Mugabe, poussé par l'armée, quittait le pouvoir au Zimbabwe après 37 ans de règne. Depuis, c'est son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa qui préside aux destinées du pays. Il y avait une promesse, celle de remettre sur pied l'économie, régler la crise monétaire, attirer à nouveau les investisseurs. C'est de loin le principal chantier, mais un an après, Abla, on peut dire que la population zimbabwéenne ne voit aucun changement positif.
Oui, le vent du changement promis par le nouveau président Mnangagwa tarde à souffler sur la population. Il suffit de se promener dans les rues de Harare, la capitale, pour constater que les queues devant les banques commencent toujours à 1h du matin pour obtenir quelques dollars, car le pays n'a plus de monnaie propre depuis une décennie. C'est le dollar qui domine, mais ses billets verts se font eux-mêmes rares. Cela empêche les commerces, les entreprises de s'approvisionner. Il y a pénurie de médicaments, de carburant. Deux monnaies de substitution ont été introduites ces dernières années. D'une part, les bolars, comme la population les a surnommés. Ce sont ces obligations censées être à parité avec le dollar américain. Et d'autre part, une monnaie électronique qui est censée parer au manque de billets en circulation. Ces deux monnaies n'ont que très peu de valeur. Du coup, les commerces s'adaptent et augmentent leurs prix. L'inflation atteint 20% du PIB, ce qui rappelle la situation des sombres années 2008-2009.
Que fait le nouveau gouvernement pour s'attaquer à ces problèmes?
Alors déjà, il faut reconnaître qu'il livre un diagnostic lucide, contrairement à Robert Mugabe qui ne l'aurait jamais admis. Oui, il y a des problèmes dramatiques de gestion au sommet de l'État, à commencer par sa frénésie d'emprunt à la Banque centrale pour se financer, un panier troué qui a engendré une dette de plus d'$1 milliard auprès de la Banque centrale. Le nouveau gouvernement a élaboré un programme de reprise économique sur 2 ans qui prévoit des réductions des dépenses, la privatisation de certaines entreprises publiques. Mais à croire que les réflexes sont lents à changer, au lieu de s'attaquer résolument à ce chantier, peut-être politiquement plus coûteux, le ministre des Finances au profil de technocrate Mtuline Kubé a décidé d'imposer une taxe de 2% sur les transactions électroniques, ce qui va renchérir le coût de la vie pour la population.
Est-ce qu'il n'y a aucun moyen de faire entrer de l'argent frais via des investissements étrangers?
Alors les violences et les soupçons de fraude qui ont entaché les élections de juillet dernier ont douché les espoirs nés après la chute de Mugabe. Certains investisseurs étrangers qui auraient aimé faire un voyage exploratoire ont dû revoir leurs plans. Et la situation économique s'est détériorée depuis, car le tout jeune gouvernement continue de faire appel au même système de planche à billets que ses prédécesseurs. Du coup, le tableau semble moins enthousiasmant. Il y a eu tout de même quelques investisseurs attirés par le riche potentiel du Zimbabwe, mais cela reste cantonné pour l'instant au secteur minier qui a été récemment libéralisé par le nouvel exécutif.
Il reste à solder les comptes avec les bailleurs internationaux, Abla.
Oui, voilà près de 20 ans que Robert Mugabe a fait de son pays un paria en expulsant manu militari les fermiers blancs, entraînant des sanctions économiques de Washington. Dans le même temps, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement avaient dû s'asseoir sur les prêts qu'elles avaient octroyés au Zimbabwe, qui s'était déclaré en défaut de paiement. L'actuel ministre des Finances, qui a compris qu'il devait impérativement renouer avec elle, a décidé de régler l'essentiel des impayés d'ici octobre 2019, soit 2 milliards de dollars à la BAD et à la Banque mondiale, grâce à l'aide escomptée de pays du G7 approchés récemment. D'après le gouvernement, les États-Unis seraient d'accord, à condition que s'appliquent certaines réformes politiques, mais aussi de transparence du secteur du diamant. Voilà un test ultime pour le jeune gouvernement, car le travail de l'ONG Global Witness l'a prouvé. Plusieurs officiers présents dans l'exécutif ont des intérêts financiers importants dans l'extraction du minerai. Deux questions se posent alors. Sont-ils prêts à ouvrir leurs comptes pour sauver leur pays? Ou est-ce qu'on assistera à une reprise en main des militaires jaloux de leurs privilèges et à nouveau à la fermeture du pays? Seul le temps y répondra.
Merci à vous, Abla Jonaidi. Aujourd'hui, l'économie sur